Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Merci, public enthousiaste. À la maison aussi, je l'espère, enthousiaste. Ça a été la grosse nouvelle de la semaine, le projet de réforme du système de santé du ministre Christian Dubé. Vous en avez entendu parler certainement. Gaétan Barrette s'est réjoui du projet de réforme tout en prédisant en même temps la Troisième Guerre mondiale. Il y a juste le docteur Barrette pour voir la Troisième Guerre mondiale comme une bonne nouvelle. Rappelons quand même que Christian Dubé veut des Top Guns pour shaker les colonnes du temple. Quoi de mieux d'ailleurs pour attirer les jeunes travailleurs dans le système de santé qu'un ministre insane qui parle comme un faucon pèlerin? Les colonnes du temple vont shaker. Si notre système de santé est un temple, ben ça ressemble à ça. Pas tout à fait. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, sera avec nous dans 40-45 minutes. Ils sont avec nous dès maintenant. Je parle de nos joueurs ce soir. Guy Nantel, Sophie Durocher, Biz, Yasmine Abdel-Fadel et pour un soir seulement, Cathy Gauthier. Triomphal! Vous êtes beau, vous êtes tout en couleur. C'est comme si vous anticipiez un peu le printemps. Merci, ben oui. D'apprécier. Merci. Cathy, beaucoup de rendez-vous manqués cette année.
Ben oui, enfin, je suis là. Merci de m'accueillir sur votre plateau.
On a eu la COVID à un moment donné entre nous. Oui. Je sais que tu as été malade. Merci, bienvenue à bord. On se retrouve dans quelques instants. Tout va bien, c'est ce qu'on te souhaite. Voici le menu de la soirée. Télétravail, doit-on forcer le retour en présentiel? Chasseurs de pédophiles, les citoyens doivent-ils jouer aux policiers? Tous les criminels sont-ils réhabilitables? Deux meurtriers, ex-détenus, en discutent avec nous en fin d'émission. Et comme toujours, parce que c'est le monde à l'envers, voici les sujets qu'on va pas aborder ce soir. On parlera pas de l'âge minimum pour travailler, qui sera dorénavant ramené à 14 ans. Alors, il y a des exceptions pour le gardiennage, les camps de vacances et pour le ministre canadien d'innovation, François-Philippe Champagne. C'est comme si on avait hésité à applaudir. Est-ce qu'on peut, on peut pas? On parlera pas non plus de ce donneur de sperme extrêmement productif aux Pays-Bas. Déjà, non. Oui, très productif, qui a une descendance d'au moins 550 enfants. Oui! Alors, la profession du Starbucks néerlandais, musicien, et en concert, il est facile à reconnaître, c'est le seul qui joue avec une seule main. Oh! On parlera pas d'Elon Musk et des centaines d'experts qui demandent une pause de 6 mois dans le développement de l'intelligence artificielle. C'est très inquiétant. Alors, pour être sûr que rien n'avance en intelligence artificielle, une suggestion, confiez ça au ministre du numérique, Éric Kerr. Et finalement, oui... La nouvelle de la semaine, on parlera pas du 4x4 qui est resté coincé mercredi matin dans la bretelle d'accès du pont Champlain avec derrière une piscine creusée. Et quand le chauffeur a dit qu'il laisserait rien à son ex-femme, il niaisait pas avec ça. Bienvenue au monde à l'envers! Et parce que c'est le monde à l'envers, on va commencer avec vos mondes à l'envers. Sophie, peut-être?
Alors, en France, il y a une ministre, en fait, une secrétaire d'État, elle s'appelle Marlène Schiappa, une femme absolument magnifique. Elle a annoncé que la semaine prochaine, elle allait faire la une du magazine Playboy.
Pardon?
La une du magazine Playboy. Elle allait être habillée, mais quand même, okay. C'est assez surprenant parce que c'est une féministe. Il n'y a pas si longtemps, elle était même ministre de l'égalité homme-femme en France. Et on pourrait dire, ben vraiment, c'est le monde à l'envers. En effet, pour moi, c'est un peu le monde à l'envers. Mais son entourage a justifié ça en disant, ben si t'es féministe, tu penses que les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent avec leur corps. Marlène a décidé de faire ce qu'elle voulait avec son corps.
Mais évidemment, elle sera vêtue.
Oui, elle sera vêtue d'une longue robe blanche et peut-être qu'à l'intérieur, elle va en dévoiler un petit peu. Qui sait?
À l'intérieur du magazine, évidemment.
Oui.
Ah. Oui, oui, oui. On a compris qu'elle ne voulait pas faire valoir deux arguments massus
non,
en
quand
se
même.
Présentant nu. Guy?
Écoute, les tentatives de censure de livres dans les universités américaines, c'est mon monde à l'envers.
Sans qu'on en parle beaucoup.
Ben oui. Écoute, 2571 demandes de livres à bannir des bibliothèques. Ils ont battu le record. Écoute, il y a quand même 74% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Et l'année dernière, c'était le record de tous les temps. Fait que t'imagines à quel point... Puis la censure, dans le fond, elle vient à la fois de la gauche radicale qui a peur de tous les mots dans les livres, puis de la droite radicale qui, elle, à chaque fois qu'il y a une scène de sexe, il voit le diable partout. Et moi, je dis, ben ne tolérons pas les intolérants, peu importe où ils logent, à gauche ou à droite.
Ouais, bravo.
Et je suis un peu, sinon beaucoup avec toi, parce que je me méfie toujours de ceux qui vont décider à ma place de ce que je dois lire ou pas. Biz.
Alors, triste nouvelle dans le petit village de Saint-Ubal, dans le comté de Portneuf. Il y a une petite fille cette semaine qui est morte ensevelie sous la neige en s'amusant dans un fort. On a tellement fait de forts dans la neige quand on était petit. Tragédie incroyable pour la famille. Donc, condoléances à la famille et au village de Saint-Ubal que j'aime beaucoup, qui se serre les coudes durant l'épreuve.
Et c'est toujours le monde à l'envers quand ce genre de choses arrive. Et finalement, Yasmine?
Moi, mon monde à l'envers, ce sont ces entreprises cette semaine qui ont dit qu'ils allaient devoir fermer boutique parce que dorénavant, on ne peut pas employer des enfants de moins de 14 ans. Quand ton modèle d'affaires dépend d'une main-d'œuvre de moins de 14 ans, ben, c'est le monde à l'envers.
Effectivement aussi, bien dit. Cathy, moi, j'ai l'impression que mon monde à l'envers, c'est en me préparant pour l'entrevue de découvrir que sur scène, tu es inoxydable. On a l'impression que tu es la fille qui a le plus confiance qu'on ait jamais croisée. Or, tu dis, je suis la championne canadienne de l'anxiété.
Oui, je fais de l'anxiété, beaucoup d'anxiété, l'anxiété généralisée même.
Mais ça se guérit pas en face d'un public, il me semble, de l'anxiété.
En fait, ça me fait vraiment du bien de retrouver mon public. C'est ça qui m'aide à aller mieux, je dirais, ouais.
Retrouver ton public parce que
après la pandémie puis après j'ai eu une petite fille qui a 5 ans aujourd'hui fait que j'ai arrêté un long moment pour le congé de maternité et puis après est arrivée la pandémie alors j'ai été loin de la scène pendant 5 ans et puis de retrouver la scène c'est ce qui m'a aidée à aller mieux.
As-tu déjà pensé que tu pourrais faire ta vie loin de la scène?
Jamais. Non, j'en
ai besoin. Femme au foyer, non?
Je pensais que de l'extérieur j'allais aimer ça faire des gâteaux là mais après une batch de muffins j'en avais mon troc, que j'avais hâte de retourner sur scène.
Tu as dit, dans le monde du spectacle, puis peut-être au Québec en général, on ne veut pas faire de la peine et ça m'énerve. Comment se fait-il, selon toi? Puis à l'émission, on le vit des fois, il y a des malaises quand les gens se pognent un peu entre eux, même délicatement. D'où ça vient, d'après toi, cette gêne devant ce qui crée le malaise?
Mais je sais pas, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a un faible pourcentage de la population qui chiale, puis que, après ça, tout, on doit s'adapter à cette faible minorité. Je trouve qu'on se défend pas assez, puis qu'on n'assume pas assez nos dires. Mais il y a une différence aussi entre sur scène, je dis ce que je veux, j'ai la liberté que je veux, j'écris mes textes. Je suis pas gênée de dire ce que je pense sur scène, mais c'est sûr qu'une émission comme ici ce soir, je fais attention parce que là, je rentre dans le salon chez les gens, je suis invitée chez les gens. Fait qu'il y a une différence de recevoir chez soi puis d'être invitée chez quelqu'un.
C'est vrai. Tu peux te donner plus de licence quand les gens viennent te voir sur scène. Mais cette idée qu'on s'écrase devant une minorité très bruyante, ça te fatigue-tu?
Ça m'énerve, oui. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je trouve que dans la société, on lave plus blanc que blanc. Alors moi, dans mon spectacle, je vais à fond la caisse.
Oui, effectivement.
Oui.
Je me rappelle avoir lu Sophie.
Oui.
Tu avais beaucoup aimé.
J'ai adoré son spectacle parce que justement, elle a pas peur de dire ce qu'elle pense. Et quand on parle de la minorité tapageuse, ben je pense que toi, tu parles à la majorité malheureusement silencieuse.
Mais pas dans ses spectacles parce qu'ils font du bruit pendant tes spectacles. Ça arrive fort. C'est quoi la vie plus blanc que blanc pour toi?
Ben c'est justement de se censurer, de s'auto-censurer parce qu'on veut pas faire de la peine, tu sais, justement. On veut pas faire de la peine à Jésus.
Mais il n'y a pas juste Jésus. Il n'y a pas juste Jésus à qui on ne veut pas faire de la peine.
Ses apôtres aussi.
Ouais, ses apôtres. C'est les apôtres qui parlent fort, ouais.
La petite gang qui aboie
gang,
plus fort.
La petite gang, les 12 qui se tiennent avec le boss, là, c'est ça.
Mais vois-tu ça plus difficile aujourd'hui que ça l'était avant?
Ben c'est plus dans le micro-détail aujourd'hui, puis à cause des réseaux sociaux, puis tout ça, aussitôt que tu
sors
un peu là, de la ligne, oui.
Est-ce que tu as des avocats qui repassent tes textes en disant « Ouf, là, faudrait que tu te prévoies une petite poursuite? »
Non, parce que tu sais, je nomme personne, je nomme aucun pan de la société, je parle de moi, c'est beaucoup d'autodérision, je ris que de moi, fait que...
Je me demandais, est-ce que tu es plus une jeune humoriste ou d'un vieux humoriste?
En tout cas, mais... moi, j'ai été invitée au Gala des Oliviers. Ouais.
Oh, bien répondu! Oh!
J'ai un droit de réplique. J'ai un droit de réplique. J'ai quand même fait parler plus de moi en n'étant pas là que toi.
Ben oui, exactement. Oh! Ouais.
Mais on peut pas dire que t'es de la relève non plus.
Ah, non, je suis pas de la relève. J'ai commencé mon premier spectacle, c'est en 2005. J'ai sorti de l'école en 1998.
Mais c'est drôle parce que tu parles de censure, puis je t'ai lu dire à mon deuxième spectacle, je pense, ou peut-être le troisième,
oui.
J'ai pas été au bout de mes idées, j'ai essayé de plaire à tout le monde, et c'est la pire idée que j'ai jamais eue.
Oui, d'essayer de plaire au monde, c'est la meilleure façon de passer à côté, je pense. Faut écrire avec son cœur, dire ce qu'on a envie de dire, puis c'est de même que les gens adhèrent à ce qu'on dit, parce que sinon ça a l'air fauné, puis c'est pas authentique. Puis mon premier show, c'est pas que j'avais juste essayé de dîmer un peu en bon québécois, là, d'adoucir un peu le matériel. Puis à l'époque, je parlais avec, c'est ça, François Avoir travaillait sur mon spectacle. Il m'avait dit, tu sais, ACDC, là, ils ont essayé de faire un album de ballade, ça n'a pas marché. Toi, tu fais du rock, continue de faire du rock. Fait que moi, j'aime ça, là, des gros solos de guitare électrique et les gens font « Ah! » Fait que c'est ça, l'humour, mais ça passe par plein de couleurs.
Dans ces solos de guitare électrique, je trouvais que c'était très audacieux, mais vraiment, de parler de ta sexualité, peut-être ou pas, mais de dire « Hey, c'est bizarre, j'ai plus de libido. » Puis ouais. Je me dis que c'est un... J'ai l'impression que c'est un tabou de dire ça.
Ben oui.
Parce que tu peux parler de ta libido débordante, de ce que tu rêves, de toutes tes nuits d'amour, mais...
De dire que t'en as pas, là, c'est... Les gens en reviennent pas, là, parce que ça a l'air que j'ai une face de fille comme ça.
Mais t'as dû déjà aimer ça.
Je sais pas. Ça revient avec le temps. Depuis que je me suis séparée, j'aime ça.
Ah! Il y a peut-être une raison entre
ouais,
les
mais
deux.
Je pense que mon petit côté judéo-chrétien m'a trop longtemps, une espèce de carcan. Là, j'avais vraiment l'impression que ma mère rentre dans la chambre et qu'elle dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Fait que là, maintenant que...
Là, c'est passé.
Je suis débarrassée de ça, là, ouais. Fait que là...
Bon,
45 ans, j'ai découvert ma sexualité.
On a quelques minutes pour explorer ça, mais sans les téléspectateurs, parce que c'est le moment du sondage à bureau. Le ministre Christian Dubé, vous le savez, a annoncé cette semaine son vaste projet de réforme pour régler les éternels problèmes de santé dans notre système. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que cette fois-ci, ça va être la bonne? Alors, je vous demande tout simplement, avez-vous confiance que la réforme du ministre Dubé va améliorer notre système de santé? Pour répondre, vous pouvez scanner le code QR à l'écran ou aller sur TVA+. Je vais présenter les résultats au ministre Dubé en entrevue un peu plus tard à l'émission. Alors, autre question, vous aimez travailler à la maison avec pas de pantalon, mais votre boss aimerait vous voir au bureau plus souvent, idéalement avec des pantalons. Après la pause, doit-on forcer le retour en présentiel?
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Maison. Mais s'il y a une chose que la pandémie nous a apportée et qu'on semble pas vouloir abandonner, ben c'est le télétravail. Selon un sondage de Léger Marketing qui a été effectué en janvier dernier, 81 % des employés en télétravail ne veulent pas revenir au bureau. Bref, les Canadiens ont pris goût à travailler en mou. Alors, parlant de linge mou, il y a le PDG d'une entreprise technologique de Québec qui a récemment enfilé un costume de dragon pour rappeler à ses employés que le monde du travail, c'est pas toujours un conte de fées. Il a accepté de se joindre à nous pour débattre de la question. Doit-on forcer le retour en présentiel? Son nom à lui, c'est Sébastien Vachon. Bonsoir, Sébastien. Bon. C'était pas juste un gag. Il y avait une envie de communiquer souvent à de plus jeunes employés que c'est chouette le télétravail, mais qu'il y a peut-être des risques. C'est pas lié à vos rendements d'entrepreneur, d'ailleurs, parce que vous faites de l'argent.
On a fait de l'argent, mais on offre des très bonnes conditions aussi. Je pense que l'idée, le contexte, c'est que à chaque année, on a un kick-off. Hein? On doit présenter comment l'année précédente a été, puis comment est-ce qu'on voit l'année. Puis juste ce petit côté-là, un peu peut-être paternaliste ou bien de bienveillance, d'expliquer aussi aux employés qu'est-ce qu'est le marché
du travail.
Puis qui protège aussi les bonnes conditions que nous offrons, parce qu'on est résolument pour le travail, le télétravail.
Résolument pour le télétravail?
Résolument pour le télétravail.
Mais est-ce que, quand vous parlez de conte de fées, c'est parce qu'il y a des risques?
Mais il y a des très grands risques, parce que pour maintenir le télétravail, il y a des conditions qu'on a mises en place, je vous dirais, depuis 7 ans avant même que la pandémie, elle arrive. Donc, on est une compagnie informatique avec des gros joueurs, AT&T, Bell, des banques. Il faut de la sécurité, il faut équiper les gens, il faut des mécanismes, il faut rester performant. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit comme risque, c'est que c'est rendu un tagline marketing pour attirer des gens. Mais très peu d'entreprises sont prêtes à ça. Puis on voit déjà aujourd'hui, avec la Banque Royale qui a annoncé un retour complet, il faut que les gens s'imaginent que c'est peut-être pas pour toujours.
Mais il y a des risques qu'on n'imagine pas, puis je vais terminer là-dessus entre vous et moi. Par exemple, qu'un jour, si c'est le fun de pas aller au bureau, ben pourquoi pas employer quelqu'un qui est en Europe? Pourquoi pas aller chercher sa main-d'œuvre ailleurs? Et donc, soudainement, on se dit, je suis en compétition avec des travailleurs compétents ailleurs dans le monde.
Bien, regardez des compagnies informatiques qui annoncent qu'ils sont en pleine croissance à l'international. Demandez-vous pourquoi ils vont à l'international. Est-ce que c'est la croissance ou on est en train de se préparer à embaucher ailleurs?
C'est ce que vous soupçonnez. Donc, ben nous, c'est quoi ça?
Oui.
C'est une phase de boue.
Ben moi, je pense que, tu sais, présentement, c'est impossible. Il faut pas penser que les entrepreneurs sont pas en train de se préparer. Fait qu'il y a une préparation mais les 5 prochaines années, on risque de voir un changement drastique parce qu'il y a l'intelligence artificielle. On a accès à des ressources. Et puisque les gens peuvent travailler de partout, ben moi, ça fait mon affaire. Je vais ouvrir un bureau ici à Montréal en septembre, au mois de mai. Ils vont avoir accès à 100 employés, une famille, bien que cause du télétravail. Mais il faut garder des lieux très vivants pour nos employés.
Mais ce qui m'a surpris, c'est que vous n'avez pas vu la face de 40 % de vos employés qui travaillent pour vous. Ça, c'est surprenant. Guy, toi, l'idée de rentrer travailler au bureau, est-ce que ça te semble?
Non, mais ce qui est drôle,
pas dans ton cas précisément.
Pour moi, non. Je suis obligé de travailler avec le public, mais... C'est parce que ce qui est drôle avec cette question-là, c'est que ça laisse aussi sous-entendre, puis de plus en plus, les sondages qu'on nous présente, ça laisse sous-entendre que l'employé a comme un choix, ou en tout cas, qu'il a comme le dernier mot, alors que la réalité, ben c'est la loi du travail, c'est le droit de gérance, puis on n'en parle jamais, tu sais. Fait que c'est sûr que l'idée, c'est pas de forcer les gens, tu sais, c'est de trouver une solution mitoyenne, sauf qu'il y a des fois que dans la nature de l'entreprise, c'est obligé. Je veux dire, t'as l'esprit de cohésion, t'as l'esprit d'équipe, t'as le sentiment d'appartenance, qui sont des subtilités. Desquels on parle jamais, mais c'est pas juste ta productivité en tant qu'individu, c'est le patron de compagnie des fois qui trouve qu'il y a un avantage et c'est lui ultimement qui a le dernier mot. Il te paye puis t'es obligé de suivre s'il décide de te forcer.
Très vite, si vous disiez à vos employés il faut vous présenter au minimum 3 jours par semaine à shop.
Ben, moi, j'y crois pas parce que c'est un peu comme avec nos enfants qu'on éduque. Moi, j'aime mieux travailler sur qu'ils comprennent l'importance de se présenter au bureau pour créer cette dynamique-là. si on les force, mais on a eu 2 ans de pandémie, moi, je me suis donné 3 ans pour réadapter ces nouveaux réflexes.
Ça dépend de la nature.
Tout à fait, tout le temps, là, oui.
Sophie?
Mais moi, je pense, comme disait Francis Cabrel, que c'est une question d'équilibre. Donc, moi, je serais plus en faveur d'un hybride entre le télétravail et le présentiel. Il y a énormément d'avantages au présentiel. L'importance de la machine à café, il y a plein de discussions qui ont lieu autour de la machine à café que tu n'as pas quand chacun est chez soi. Le sentiment d'équipe, ça brise la solitude. Travailler chez soi, à la maison, là, le télétravail, c'est le fun, un temps, mais on est extrêmement isolé et quand on travaille en présentiel, le plus important, c'est que tu vois les gens, tu les regardes dans les yeux et comme patron ou même comme collègue, tu es capable de savoir qui va bien et qui ne va pas bien. Et il y a beaucoup de détresse qui passerait inaperçue si on était tous en télétravail 100% du temps.
Cathy, toi?
Mais moi aussi, je suis pour le retour au travail. Je trouve que un peu pour les mêmes raisons que Sophie vient d'énumérer, et puis ne serait-ce aussi que pour recommencer à faire vivre l'économie de la ville, les restaurateurs se meurent.
Ben,
la
les
ville
tours,
est vide.
Les tours à bureau.
Oui, les tours vide. À bureau. Je veux dire, mon ex est avocat dans une grande tour à bureau, puis il paye là, des milliers de dollars pour des bureaux vides à chaque mois. Fait que c'est un peu insensé tout ça. Fait que puis oui, je trouve que ça dynamise les équipes. Puis ça fait du bien de se lever le matin, de se brosser les dents, de s'habiller, puis d'aller travailler. C'est bon pour l'estime de soi, c'est bon pour le moral, puis voir d'autres mondes. Puis j'ai l'impression que t'es plus performant aussi en étant au bureau qu'assis dans ton salon où tu peux te faire déranger par ton téléphone, Facebook, le chat, n'importe quoi, tu sais.
Surtout le chat.
Le chat, fatiguant, le chat.
Ça dépendrait des métiers, évidemment. Je pense à la fonction publique, par exemple. Moi, je trouve pour le citoyen, c'est important qu'il y ait accès à un endroit où il y a des gens qui travaillent
vivant.
Physiquement. Parce que c'est aliénant, votre appel est important pour vous, appelez, pesez sur le 3, pesez sur le 4. On peut devenir fou à penser qu'il y a personne qui est jamais responsable, personne qui est jamais imputable. Pour la fonction publique, pour moi, avoir des gens ensemble qui travaillent pour le citoyen, c'est important.
Mais est-ce que c'est une... Est-ce que c'est une question de génération? Tu es peut-être la plus jeune, sinon certainement la plus jeune autour de la table aujourd'hui. Est-ce que tu crois que de plus jeunes travailleurs pourront être convaincus un jour qu'il faut aller travailler au bureau?
Bien, moi, je pense que ceux qui s'attachent aujourd'hui au retour au travail, puis je dis pas que c'est mauvais le retour au travail, mais c'est qu'on s'attache aussi à une autre manière de mesurer la productivité, mesurer la performance. Il faut aussi, quand on change de milieu de travail, de culture de travail, qu'on détermine des indicateurs de performance basés sur autre chose que juste le présentéisme. Quelqu'un qui est assidu, puis qui vient à l'heure, puis qui part à l'heure, ne fait pas de lui un bon employé.
Pas pour
quelqu'un
autant.
Quelqu'un qui est chez lui, puis qui travaille peut-être un nombre d'heures plus petit, mais tellement plus productif, est un bien meilleur employé, beaucoup plus rentable. Les entreprises doivent aussi faire l'effort de changer leurs indicateurs de performance pour faire face à cette réalité-là, puis pas juste se dire, on est paresseux dans notre manière de gérer nos ressources humaines, on va garder les mêmes indicateurs, puis c'est à l'employé de changer sa manière de faire.
Mais pour l'avancement professionnel, moi, j'ai hâte qu'il y ait des études là-dessus, puis ça rejoint un peu ce que Sophie disait. J'ai hâte de voir, parce que, tu sais, le patron qui côtoie un employé à chaque jour, ils évoluent ensemble.
Yes.
L'autre qui est toujours chez eux à maison, puis tu le vois juste dans un climat de Zoom partagé, c'est pas la même affaire, tu sais, je veux dire.
Mais je suis sûr qu'il va avancer sa carrière, le fait d'être présent, ben, d'être vu,
c'est
d'être mesuré.
C'est ce que je te dis.
Oui, mais c'est parce
oui,
que
mais non.
Le milieu de travail va changer. Demander à un employé de faire la même chose qu'il peut faire chez lui de façon plus efficace, de venir le faire au bureau, c'est un non-sens. Le bureau change. Développer des idées, faire de l'innovation,
mettre
collaborer. Oui, la table de billard.
Mais vous avez investi 700 000 $ dans
oui,
vos
pour
bureaux
ça,
pour
justement,
les ramener.
Mais on l'a changé complètement. C'est de la formation, c'est des échanges, c'est de l'innovation. C'est aussi
une valeur ajoutée à la
valeur ajoutée, mais pas pour faire le travail. Mais c'est aussi le bien-être des gens, la santé mentale, les gens qui sont tout seuls, de
consolider
la valorisation. Puis comme tu dis,
c'est quand tu pars du bureau,
dans l'organisation.
Tu laisses ton travail au bureau. Tu sais, tu laisses ça, tu fermes la porte, puis c'est fini, normalement.
Normalement.
Ça, c'est un avantage.
Mais ce qu'il nous dit, c'est que dans le fond, on va pas au bureau pour travailler, on va au bureau pour retrouver son équilibre.
C'est la culture d'entreprise.
Non, mais écoutez, nous, on est plus performants, mais c'est parce que le développement d'un individu, c'est pas seulement livrer un travail, c'est se développer dans une carrière avec un mentor. Un stagiaire, aujourd'hui, qui arrive dans un bureau en télétravail, c'est un non-sens. Il faut qu'il rencontre des gens. Mais quelqu'un qui travaille avec une équipe, qui sont seulement américains qui sont à distance, ça tient la route.
Mais Sébastien, je veux terminer là-dessus rapidement parce que c'est un truc que vous avez soulevé qui peut peut-être surprendre certains des jeunes qui nous écoutent.
Oui.
c'est que les rapports de force vont changer dans le marché du travail. Oui. Comme vous disiez, dans 5 ans, c'est un peu ça le sous-thème, c'est que les employés seront plus souverains comme ils le sont aujourd'hui.
Bien, écoute, c'est évident, regardez à toutes les strates aujourd'hui, comment est-ce que les gens sont moins attachés à leur carrière parce qu'ils savent que demain matin, ils peuvent trouver un autre emploi. Les relations ont pris racine parce qu'il y a une pénurie d'emplois. Mais ça, c'est pas pour toujours. Hein. Les gens vont aller à l'extérieur, vont embaucher des nouvelles personnes, ils vont avoir l'automatisation. Fait que le prochain 5 ans, il va être critique. Il faut juste que les gens restent dans une nouvelle ambiance.
Un mot de la fin, oui, rapidement.
Ben, juste en faveur de l'hybridité, il y a une compagnie de pub qui s'appelle, je pense, Créapub. Eux, vu qu'ils n'avaient plus de gens qui travaillaient en présentiel, donc ils ont économisé de l'argent sur les loyers, ils ont pris cet argent-là pour payer des voyages en groupe pour construire l'esprit d'équipe. Donc, je pense à Cube, on devrait faire ça. Ouais. Un bureau, puis on va tous en voyage.
Vous souhaite... Je nous souhaite de sauver sur les coups de studio, puis on fera l'émission en direct de la plage l'année prochaine. Novembre dernier, vous l'avez peut-être lu, André Simard, la veuve de l'ancien premier ministre, Robert Bourassa, est décédée dans d'atroces souffrances à l'hôpital Sainte-Marie à Montréal. Sa fille, Michelle, se bat maintenant pour que tous les Québécois aient droit à de meilleurs soins de fin de vie. Elle sera avec nous tout de suite après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Pour participer au sondage à bureau, scannez ce code QR ou rendez-vous sur TVA+.
Mourir dans la dignité, c'est pas seulement avoir accès à l'aide médicale à mourir, c'est d'abord recevoir des soins palliatifs pour gérer les douleurs atroces qui accompagnent très souvent la fin de vie. André Simard, la veuve de l'ancien premier ministre Robert Bourassa, n'a pas eu la chance de mourir très dignement dans son agonie. Elle a enduré de nombreuses douleurs insoutenables. Si même la veuve d'un premier ministre n'a pas droit à ce genre de soins de base, qu'en est-il pour vous ou pour moi? Bien, sa fille aujourd'hui se bat pour que tous les Québécois aient un meilleur accès à des soins palliatifs. Michel Bourassa. Bonjour, Michel. Merci d'être là d'abord.
Merci de m'inviter.
Je sais qu'on rentre dans des zones très intimes. Vous avez dit, c'est la dernière fois que je parlerai publiquement de ma mère et de ce qu'elle a traversé. Juste pour ceux qui n'auraient peut-être pas lu votre cri du cœur à l'époque, quand vous avez fait votre lettre ouverte, je retiens, moi, une chose que vous avez écrite. J'ai infiniment de honte pour mon système de santé.
Oui. Ce que j'ai vécu, c'était vraiment horrible et atroce.
Et votre mère, évidemment.
Pour ma mère et pour toute notre famille. Et ça a eu un impact incroyable sur nos vies. Mais c'est la façon dont tout ça, ça s'est passé. Il y a eu un bras de fer incroyable. Il y a eu une espèce d'opacité. Il n'y avait pas moyen de faire bouger les choses pour qu'elles souffrent.
Bras de fer avec le personnel?
Ah oui, 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 certainement. Et j'ai eu honte. Je me suis dit, je ne peux pas croire qu'on en est rendu là. Je ne peux pas croire que les Québécois vont vivre ça, là. C'est impossible. C'est insoutenable.
Parce que votre mère souffrait.
Infiniment.
Et qu'on refusait à ce moment-là
de lui donner la...
et alléger ses souffrances.
Ben c'est ce à quoi elle avait droit, c'est la sédation palliative continue. C'est un droit. Il y a plusieurs... La loi est assez claire. Là, on a le droit de recevoir ça pour abréger les souffrances, mais et puis elle n'a pas eu le droit de le recevoir à l'hôpital Sainte-Marie.
Donc, vous l'avez vu de vos yeux
ah, ben oui.
souffrir, agoniser. Et on vous dit, à l'hôpital, nous, on ne tue pas nos patients.
Oui.
Ça voulait dire quoi? Comme ben, si vous étiez tenté de tuer votre mère?
Bien, il y a un problème de valeur ou de formation ou quelque chose comme ça. Ça se peut pas de me faire dire ça. Je veux dire, la loi est claire. Donc, ça veut dire que les employés savent pas ce que c'est que des soins palliatifs. Dans les soins palliatifs, il y a une prise en charge de la famille, il y a une prise en charge du patient, il y a un plan de traitement. Tout ça, ça a pas été fait du tout. Puis, on était pointé du doigt parce qu'on voulait qu'elle arrête de souffrir.
Au point qu'on vous a même menacé presque physiquement de vous sortir de l'hôpital alors que votre mère était en train de mourir.
Oui. On m'a menacé de me sortir parce que j'avais brisé le lien de confiance avec le personnel soignant. Mais j'ai dit « sortez-moi ».
Et on a dit que vous étiez raciste aussi.
Aussi. Parce que je me suis fâchée. Puis une infirmière, je ne sais plus, elle n'avait plus d'arguments. Elle a dit « vous me parlez comme ça parce que je suis noire ». Tu es en train de vivre la pire crise de ta vie. Tu perds ta mère. Mmh. Tu te fais dire ça, c'est j'avais l'impression d'être dans un mauvais film.
Alors, évidemment, ça ne peut pas être l'exemple qui dit que partout ailleurs, c'est de la même façon que ça se passe, parce que j'ai vu mon père mourir dans des conditions bien meilleures dans un hôpital de Montréal. Jusqu'à quel point, aujourd'hui, vous pensez que c'est un problème de système, que ce n'est pas juste votre famille qui a vécu ça?
Bien, c'est que suite à ma lettre, j'ai reçu tellement de commentaires et d'appuis de gens, d'ailleurs, en primaire, Pierre Craig m'a appelé, il a vécu la même chose que moi. Je veux dire, je suis sûre qu'à quelque part ici dans la salle, il y a quelqu'un qui a vécu ça. Donc, j'ai décidé que c'était terminé, qu'il fallait dénoncer. Absolument.
Et vous avez le hashtag Mort en silence qui est le début d'une action que vous organisez.
Oui.
Moi, la question que je me suis posée, je me suis dit, effectivement, si la veuve d'un premier ministre, qui est un peu le père de la carte d'assurance maladie, je parle de M. Bourassa, votre père,
il est.
a de la difficulté à obtenir des services. Si moi, j'ai pas de contact dans la vie, ça va être difficile.
Bien, d'ailleurs, c'est non pertinent, si la femme de Robert Bourassa, c'est tout le monde. Je veux dire, dans la loi et dans l'essence qu'on a donnée à notre système de santé, la dignité est au cœur du système de santé.
Vous n'avez pas senti ou vécu la dignité?
Pas du tout. Puis moi, je vais me battre pour ceux qui ont moins de voix que moi.
Avez-vous peur, non pas de mourir, mais de ce qui précède la mort? Parce que moi, depuis cette histoire, mais plein d'autres, ce qui m'inquiète davantage, c'est pas tellement de mourir, quoique... Mais c'est d'être grabataire, d'être laissé à moi-même, puis de souffrir longtemps. Tellement, puis j'imagine que d'autres se sont posé la question, dans la salle ou à la maison, l'idée de choisir l'aide à mourir le plus vite possible, à un moment donné, je me suis dit, bien, oui, plutôt que de souffrir. Avez-vous peur, vous?
J'ai peur, certainement que j'ai peur. Mais par contre, je crois en une mort magnifique. On est une fois, on meurt une fois. Mourir pour avoir accompagné des gens, c'est quelque chose de triste, mais de magnifique.
Alors, great, beau.
C'est rendre la vie. Et c'est, on peut le faire de façon magnifique, accompagnée dans la douceur. Moi, je veux mourir, je veux pas avoir peur, je veux me sentir en sécurité et je veux m'en aller là où il faut que je parte.
Mais ce que vous avez traversé et vécu, est-ce que ça vous a...
traumatisé.
et ça donne peur d'avoir peur, c'est-à-dire de se réveiller dans des circonstances où on se dit « Oh, je suis là, puis je peux rien faire ».
Bien, c'est ce qui est arrivé à maman. C'est horrible. C'est horrible.
On va avoir le ministre de la Santé dans quelques instants dans ce fauteuil. Je sais qu'il vous a appelé pour s'excuser, mais ce n'était pas à lui de s'excuser directement. Il y a eu bien des ministres. Ils ne sont pas responsables de tout ce qui se passe tous les jours. Est-ce que vous êtes, vous, confiante que les choses vont peut-être changer, qu'il y a une conscience sur ces enjeux-là?
Oui. Il y a des très bonnes choses, moi, je trouve, dans ce projet de loi-là. Il y a une façon d'amener ça pour que ce soit plus en souplesse, qu'il y ait plus de mobilité dans le système avec mon œil de Madame Ressources humaines. Il y a des bonnes choses. Puis il y a l'imputabilité des directeurs généraux aussi. Ça, pour moi, c'est important. Parce que dans mon cas, il n'y avait personne d'imputable. Ça prend des
Donc,
gens...
Donc, si vous cherchez un responsable à qui vous pouvez dire hey, « ça ne s'est pas bien passé »,
c'est ça.
Il n'y en a pas?
Bien, en ce moment, il y a l'ombudsman, mais la fin de semaine, il n'est pas là. Puis, il faut y envoyer une lettre, puis tu reçois une réponse dans 45 jours. Moi, je pense qu'il faut des équipes palliatives en tout temps dans les hôpitaux, parce qu'on meurt du lundi au dimanche, 24 heures par jour.
Et pas juste aux soins palliatifs.
Exactement. Donc, dans la loi, ce que je dirais à M. Dubé, c'est... Les médecins de famille, sortez-les en partie des hôpitaux, ramenez-le sur le terrain pour ramener les gens à avoir des soins palliatifs à la maison ou dans, tu sais, qu'ils soient plus disponibles.
D'ailleurs, une statistique intéressante que j'ai comprise en me préparant, c'est qu'au Québec, 11 % des morts se passent à la maison, alors qu'au Canada, c'est 30 % dans le reste du pays, 30 % parce qu'on est équipé pour mourir chez soi. Oui.
Et au Canada, 20 % des médecins généralistes sont dans les hôpitaux. Au Québec, c'est 40. Donc, si on sort 20 % des médecins, on règle le problème avec les soins palliatifs. Il y a des médecins partout dans les CLSC pour faire du bureau puis donner un support.
Resterez-vous avec nous pour la suite des choses en compagnie du ministre ou vous n'êtes pas intéressé à...
Avec plaisir.
Merci beaucoup. Dans quelques instants, le ministre de la Santé, qui apparemment à la semaine de 4 jours, il bouillait son sirop d'érable ou son eau d'érable aujourd'hui, mais je suis certain qu'il répondait aussi au téléphone. Il est avec nous dans 3-4 minutes.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
On va faire ça simple. Selon lui, notre système de santé a besoin de plus d'équipements, plus de travailleurs, probablement plus d'argent. Bref, de tout, sauf de l'opinion du Dr Barrette. Le ministre de la Santé, Christian Dubé.
Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
Vous parlez à vos fans? Vous êtes un homme populaire, hein, vous le savez?
Pas toujours.
Pas toujours, je comprends. Écoutez, on a reçu des messages, ça arrive jamais. J'espère que vous ne serez pas sur le dos de M. Dubé. Il y a eu une grosse semaine. Ça, c'est à moi que c'est adressé. Avez-vous eu une grosse semaine?
Une bonne semaine.
Une bonne semaine. Quand même, semaine de 4 jours, vous êtes allé faire bouillir l'eau d'érable?
Bien, en fait, des fois, le jeudi soir, quand je pars de Québec, j'essaie d'aller directement à ma petite, mon endroit de cachette préféré. Et ces temps-ci, j'ai une petite cabane à sucre. Alors, c'est sûr que c'est la bonne façon de faire le point sur la semaine.
Pour faire bouillir la température d'autre chose que de votre sang.
Que mon sang, exactement.
Je peux facilement l'imaginer. Je faisais à la blague une petite observation sur le Dr Barrette qui était très visible cette semaine.
Oui.
Ça donne l'impression que c'est peut-être lui le vrai ministre de la Santé. Est-ce que c'est lui qui tire en ficelle, en arrière, les ficelles?
Ben écoutez, je pense que les gens réalisent que j'ai un style un peu différent. Alors,
c'est toutes ces réformes, c'est tout ce qu'il avait placé.
Écoutez, c'est sûr qu'il a fait de très bonnes choses, puis je pense qu'il faut l'avouer, chaque ministre de la Santé qui a passé dans les dernières années a toujours fait son possible. Moi, mon approche est peut-être différente, puis le fait d'avoir vécu la pandémie ensemble, je pense que j'ai fait un diagnostic qui est peut-être différent
des
autres.
Est-ce qu'il vous conseille? Est-ce qu'il vous a conseillé?
Je lui ai parlé quelques fois, puis j'ai pas de cachette avec ça, parce qu'on apprend toujours de parler qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui a pas fonctionné, qu'est-ce qui a bien fonctionné. Et non, au contraire, j'ai quand même une relation, j'essaie d'avoir une relation avec le plus de personnes qui peuvent nous aider.
Parce que vous en avez besoin, Monsieur le ministre.
Oui.
C'est une grosse affaire qui se présente devant vous. Vous avez un partenaire dans cette opération-là qui est nécessairement le premier ministre.
Oui.
Il dit que les guts. Ça, c'est son expression, les guts. Ouais. Pour vous, c'est quoi avoir les guts en ce moment? Pour le ministre que vous êtes?
Le premier ministre a parlé beaucoup que ça prenait beaucoup de courage, qu'on allait piger dans notre sac de courage parce qu'on est en début de mandat et d'être capable de faire les changements nécessaires. Alors, on l'a dit qu'il y avait beaucoup de changements à faire, que ce soit avec les professionnels de la santé, avec entre autres avec les syndicats, avec nos PDG, avec tout le monde. Alors, ça veut dire prendre chacune de ces parties prenantes-là puis de leur dire, ben peut-être qu'on devrait faire autrement. Alors, quand vous avez plusieurs personnes à qui vous demandez de changer...
C'est de s'exposer à la tempête aussi.
Ben c'est ça. Alors, par contre, il n'y aura pas de guerre nucléaire. Je l'ai dit à M. Barrette, là, on n'a pas
c'est
la
pas
même...
C'est pas nucléaire. Est-ce qu'il va y avoir une guerre?
Non.
Serais-vous capable, comme M. Macron, de dire, même si ça grondait très, très fort, imaginez que ça runimbre encore, puis dire, nous, on bouge pas, on change pas. Est-ce que vous avez eu ces discussions avec le gars qui a des gottes?
Mais regardez, je vais vous donner... je vais vous donner un exemple aujourd'hui d'une très belle nouvelle que j'ai eue là. Le Parti québécois, qui avait assez mal réagi en chambre mercredi quand j'ai déposé, et hier, tout d'un coup, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit « OK, on va changer d'attitude. Ce qui est arrivé avec les oppositions cette semaine, c'est pas acceptable. Donnons-lui une chance, puis on va être... »
Au ministre.
Au ministre. C'est quand même quelque chose, l'opposition, de changer cette façon d'agir un peu...
Parce que toujours. C'est pas un enjeu partisan, on l'espère,
pas du
la
tout,
santé.
C'est exactement ça. Alors, juste ça, qu'un parti d'opposition, aujourd'hui, deux jours après le dépôt, dise « on va changer d'attitude », pour moi, c'est très encourageant.
On peut l'applaudir certainement, ce changement d'attitude. J'aimerais ça qu'on ait la soirée. Moi, je vous garderai à table.
Moi, je suis pas pressé. Là.
Je sais, vous n'êtes pas pressé, mais vous n'êtes pas dans mon fauteuil. Moi, j'ai des annonceurs qui payent votre salaire. Monsieur, sérieusement.
On rentrera pas là-dedans.
Non, pas
on rentrera pas là-dedans.
C'était une blague. Je constate que ce que vous vous apprêtez à faire avec l'agence, c'est en même temps un puissant désaveu de la capacité de gestion des services par le ministère. Ce que vous dites et que vous avez envie de me dire oui, mais pas tout à fait.
Non. Moi, j'ai appris là, à apprécier beaucoup nos grands fonctionnaires. Quand je suis arrivé dans un moment très difficile, là, juin 2020, les Québécois avaient eu la première vague, on m'a présenté Mme Savoie, qui est la sous-ministre. Et je dis ça parce que je l'avais connue, entre autres, quand j'étais à la Caisse de dépôt. Puis ce que je veux vous dire... c'est qu'on a d'excellents fonctionnaires.
Oui, mais si c'était si efficace, vous ne confieriez pas aujourd'hui ou confieriez pas aujourd'hui à une agence distincte la gestion de la livraison des services.
Bon, regardez, depuis 20 ans, là, il y a un monsieur Michel Clerc en l'an 2000 qui a dit « il faut séparer le ministère des opérations ». Le fonctionnaire, il est là pour faire les orientations, pour dire c'est quoi les objectifs.
Exact.
Mais on peut avoir des gens qui se spécialisent dans les opérations, sauf que ça prend quelqu'un qui dit « voici ce que je veux ».
À 4h15, j'ai parlé avec Michel Clerc.
Oui.
Longuement.
Aujourd'hui, ça.
Oui, aujourd'hui.
OK, bon.
Il me dit « il faut absolument en parler avec Dubé ». C'est vrai, l'idée de l'Agence de la santé, j'y crois depuis 20 ans, je l'ai même suggéré. Mais en même temps, quand on va l'avoir créé, il faut couper 50 % des postes au ministère de la Santé. 50 %.
Parce qu'ils
ne serviront plus, ces gens-là.
Ben c'est ça. Il y a beaucoup de gens, en ce moment, au ministère qui sont mêlés dans les opérations.
Juste dans les opérations qui sont mêlés?
Non. Non. Je dirais pas ça, mais à un moment donné, là, après 20 ans, 30 ans que la santé était conduite d'une certaine façon, je pense qu'il faut arrêter et dire qu'est-ce qui n'a pas marché durant la pandémie? C'est pour ça que je...
Mais c'est pas juste la pandémie.
Non, mais... Je vous dis, dans la pandémie, là, une organisation qui est sclérosée, ça paraît. Et c'est ça qu'on a réalisé dans la pandémie. Puis regardez comment les gens étaient contents de la période de vaccination. On a été capable de vacciner 125, 150 000 personnes par jour. Ça s'était jamais fait. On a fait les choses autrement. C'est ça.
Vous comprendrez qu'à moyen et long terme, on ne sera pas toujours en pandémie. C'est l'ordinaire du système dont on parlait avec Mme Bourassa.
Oui.
Qui n'est pas toujours heureux. Je me rappelle d'une conversation avec Denis Arcand, qui est un bon observateur de la société québécoise, pas spécialiste de la santé, qui me disait, le système de santé, il y a quelque chose d'un peu soviétique. Quand tu es membre du parti, ça va bien. Quand tu ne l'es pas, c'est plus difficile. Avez-vous des amis ou des membres de la famille qui, des fois, vous appellent en disant « Christian, pourrais-tu me donner un conseil? »
Souvent.
Souvent?
Souvent.
Puis, c'est pas normal que ça fonctionne.
Ben non. Alors, c'est pour ça que après avoir fait le diagnostic pendant la pandémie, on s'est dit, il y en a des... Moi, j'ai eu la chance, j'ai travaillé en Suisse pendant quelques années, quand j'étais dans une autre organisation. J'ai connu qu'est-ce que c'est qu'un bon système de santé.
Par rapport à nous, qui n'en serait pas un tout à fait bon.
Ben, c'est un problème d'accès qu'on a ici, là. C'est un problème de qualité de service que Mme Bourassa comptait tout à l'heure. Ça n'a pas de bon sens qu'on se fasse traiter comme ça à l'hôpital. Et moi, ça vient me chercher parce que je me dis, quand ça m'arrive à moi, si ça arrive à ma mère ou à des gens que je connais, j'accepterais pas ça.
Est-ce que ça vous inquiète quand vous parlez de votre mère, elle est vivante, donc?
Ma mère, elle a 90 ans, elle est dans une RPA, puis à chaque fois que j'entends des cas comme ça, je me dis, si ça arrive à ma mère, je l'accepte pas. Donc, je me fais un peu le défenseur du patient, puis c'est ça mon rôle.
Et j'en suis absolument convaincu, parce que je doute pas de votre bonne foi. Si vous aviez à dire en quoi ça vous a le plus changé, ce job, en un mot?
L'écoute. J'ai beaucoup appris en écoutant les infirmières. J'essaie de faire au moins un hôpital, de faire un CLSC au moins une fois par semaine. Puis quand on rencontre les gens sur le terrain, ils nous le disent, qu'est-ce qui va pas.
Je pense que vous serez heureux des résultats du sondage. Avez-vous confiance que la réforme du ministre Dubé puisse améliorer notre système de santé? C'est quoi le cas, selon vous? 76%.
Wow!
2 pouces.
Wow!
Je vous assure que vous ne m'avez pas donné l'impression d'être un gars qui était aux soins intensifs en ma compagnie.
Non,
vous êtes en très bonne santé. Merci. Bonne fin de soirée. J'attends votre sirop d'érable avec enthousiasme.
Je vais retourner bouillir.
J'attends ça. Après la pause, on s'intéresse à ceux qui font la chasse aux pédophiles, mais il y a une question derrière tout ça. Peut-on se faire justice soi-même? À tout de suite.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Ou votre emploi du soir? Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Les pédobusters ou chasseurs de pédophiles sont des citoyens qui s'improvisent justiciers pour traquer de présumés agresseurs d'enfants. C'est un phénomène mondial, mais qui a maintenant des antennes au Québec. Bien de leur époque, ils se filment pour diffuser ensuite leurs exploits sur les réseaux sociaux.
Parle-nous! Hey, on est ici pour parler, gros. On n'est pas méchants, on va pas te faire mal, gros. On est du monde pacifique. On est juste ici pour protéger nos enfants, gros. Peux-tu te plaît me parler, man?
Je m'en prie mon truc, juste puis elle passe. Ouais. Ah, ça, il s'en va, là.
Faut que ça fasse, là. Ça passe? Faut que ça fasse.
Ah, ouais, j'allais, ça passe. Elle est bien comme du monde, ça passe.
Alors, la bande de chasseurs de pédophiles de Gatineau vient d'être arrêtée et accusée de nombreux crimes, dont distribution de pornographie juvénile, harcèlement et séquestration. En janvier dernier, ils avaient pourtant été avertis par les autorités des risques à jouer à la police. Alors, notre question, est-ce que c'est aux citoyens d'effectuer le travail de la police? Là-dessus, on commence avec Guy, peut-être. Est-ce que les citoyens doivent se substituer aux policiers?
Écoute, malgré l'apparente noblesse d'une cause, c'est absolument impossible de fonctionner comme ça. Puis il y a vraiment une fâcheuse tendance qui se dessine depuis quelques années. Puis que ce soit la gauche avec les dénonciations anonymes, ces réseaux sociaux, que ce soit la droite avec les pédobusters, parce que si on se permet ça individuellement, ça veut dire qu'on le permet à tout le monde. Donc, c'est appelé à des dérives. Puis, écoute, j'ai fait une recherche. 5 petites minutes. Ça n'a pas été long. Regarde ça, je suis tombé là-dessus. Là, j'en ai plusieurs. Angleterre, un gang de justiciers tue à tort un homme qu'il pensait être un pédophile. Finalement, ça n'en était pas un. OK? Un homme victime de chasseurs de pédophiles décède de ses blessures. Ça n'en était pas un. Personne de 73 ans, un homme piégé et lynché par des chasseurs de pédophiles. On le voit dans son cercueil.
Lynché?
Oui, oui, oui. Aux États-Unis, en France, les Pays-Bas sont en crise. Écoute, on a des institutions pour administrer la justice. Il n'y a aucune négociation possible pour moi par rapport à ces questions-là.
Ton opinion, Cathy?
Ben moi aussi, je rejoins Guy là-dessus. Je trouve pas que c'est nécessaire de se faire justice soi-même. Je suis pas pour les dénonciations publiques, toutes ces affaires-là, parce qu'on a un système de justice qui est en place pour ça. Là, les pendaisons publiques, j'aime pas ça. Mais en même temps, ils leur font pas de mal, ils les battent pas, ils les tabassent pas. Puis moi, si mon enfant était victime d'un pédophilie, je serais bien contente que quelqu'un le ramasse. Puis peut-être qu'il tabasse un peu.
Peut-être qu'il tabasse un peu.
J'ai pas vraiment de pitié pour les
Yasmine,
pédophiles.
Yasmine, toi, t'es certainement autour de la table avec nous, en fait, de la table virtuelle, parce qu'il n'y a pas gros de table entre nous.
Non.
Mais t'es celle qui les connaissait depuis longtemps parce que t'y suis partout dans le monde.
Oui, je les suis parce que je suis passionnée par tout ce qui est criminologie. Puis moi, des personnes qui essaient de suivre des groupes ou des personnes qui vivent une déviance, ben ça m'intéresse. Donc, quand on m'en a parlé, je suis comme, ben oui, je les connais. Puis je sais pas si à quel point je pense qu'il ne faille pas protéger nos enfants collectivement. Ça prend un village pour élever un enfant, on n'arrête pas de le dire. Puis les derniers mois, là, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris qu'il y avait de la violence sexuelle, des agressions sexuelles, de l'harcèlement sexuel dans tous nos centres de services scolaires et qu'il y avait du monde qui le savait, du monde qui était au courant et qui n'ont pas dénoncé. Il y a des enfants qui ont été agressés, personne n'a levé le petit doigt. Alors qu'aujourd'hui, moi, je veux pas qu'on les tabasse. Moi, je veux pas qu'on les frappe.
Non, on veut pas leur
mais aujourd'hui,
faire mal,
on est en train de lever lever des drapeaux, de dire, écoutez, cette personne-là s'est présentée pour pouvoir harceler ou agresser
parce
un enfant de 14 ans.
Ils tentent des pièges.
Ils tentent des pièges, oui. Mais ça permet de protéger nos enfants. Puis si c'est mon enfant qui est protégé, ben
oui. Moi, je trouve que cette justice populaire-là, c'est le syndrome de l'érosion de la confiance dans l'institution de la justice. Oui. La justice, comme la sécurité, comme la liberté, c'est un sentiment et la perception qu'on en a est au moins aussi importante que la réalité elle-même. En ce moment, la justice, il y a beaucoup de citoyens qui n'ont plus confiance en la justice. Les prisons débordent, on réduit les peines, on n'a pas assez de temps avec les arrêts de Jordan, on remet des criminels en circulation. Je comprends l'impulsion de se faire justice soi-même, des fois, quand l'appareil ne réussit pas à le faire.
Ben,
Sophie, avant ton débat.
Extrêmement attention. Faut vraiment faire attention quand on dit qu'on a plus confiance dans le système de justice. Écoute, ça vient de sortir à 4 heures cet après-midi. C'est mon collègue Michael Nguyen du Journal de Montréal. Un Montréalais de 42 ans, aujourd'hui au Palais de justice de Montréal, il leurrait des jeunes ados sur Internet en leur proposant du sexe contre de l'argent, tout en leur demandant de lui trouver des jeunes filles les plus jeunes possibles. Il a plaidé coupable aujourd'hui. Il s'était fait attraper par qui? Par un agent d'infiltration. Pas par un pédobuster, par un agent d'infiltration de la police qui a fait sa job. On vit dans un état de droit, on va pas commencer. C'est pas parce que c'est le Far West dehors qu'il faut que tout le monde s'improvise shérif. Si on n'aime pas la loi, on change la loi. On ne devient pas la loi.
Mais au-delà de la loi, ce qui se passe, je pense, ce qui inquiète les citoyens, c'est les moyens qu'ont les forces de l'ordre pour
surveiller. Donnons-leur plus de moyens, Stéphane.
Parce que tu m'as déjà dit, si quelqu'un touche à mes enfants, je pourrais être un peu moins rationnel que je le suis sur ton plateau quand je t'explique ce en quoi je crois.
Et des fois, quand la société met de la pression sur les institutions, on peut changer les choses. Rappelez-vous du procès de Turcotte. La société civile n'a pas accepté la défense et l'acquittement pour non-responsabilité criminelle. On a refait un procès qui a condamné ce gars-là. Donc, des fois, quand les citoyens s'en mêlent, pas en lynchant du monde, pas en tirant du monde. Mais quand on s'en mêle, qu'on fait de la pression, qu'on dit « Nos enfants sont plus en sécurité, il faut que vous fassiez quelque chose », ça peut donner
des résultats. Mais Bill, si tu permets à ces gars-là qui font juste filmer, tu permets à tout le monde de le faire. T'es d'accord avec ça? Et là, je suis en train de te parler de cas de débordement où des innocents sont tués, sont lynchés.
Moi,
je te donne un exemple. OK, toi, tu dis « Faut protéger nos enfants ». Imagine-toi là qu'eux autres, ils piègent quelqu'un, puis ils font juste dire « Écoute, oui, je suis un enfant ». Le gars, il dit « OK, on se donne rendez-vous au Mont-Royal. Je vais être habillé un imperméable bleu puis un jeans ». Puis ça donne qu'il y a quelqu'un qui se promène avec un imperméable bleu puis un jeans, il y a un enfant qui est là, la personne va le voir, ça va-tu, t'es-tu correct? Quand même qu'il fait juste mettre sa face, c'est pas un système de justice, c'est Joe, c'est Joe Blue qui décide.
Ils ont aussi des protocoles, c'est-à-dire qu'ils vont rétablir le contact téléphonique avec la personne, s'assurer, c'est-à-dire que
mais ça peut être n'importe qui fait n'importe quoi. On vient de le voir là-dessus.
Moi, je parle pas de ça. Moi, je parle juste de la question de la pédophilie, là. On peut pas guérir de la pédophilie. La seule chose que l'on peut faire, c'est prévenir le passage à l'acte avant qu'il y ait une vraie victime. Puis là, quand il y a une vraie victime, là, se dire puis se réveiller puis dire il va falloir agir, c'est un petit peu trop tard. La victime est déjà faite.
Mais je veux juste te dire
ça peut être dissuasif pour des personnes de se présenter à des rendez-vous avec des enfants de 14 ans.
Ça, c'est quoi le danger? C'est que eux, là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de leurrer des gens. Donc, ils sont obligés, eux autres-mêmes, d'envoyer de la pornographie. Alors, ils sont en train de donner une porte ouverte à des vrais pédophiles qui, eux, vont envoyer des enfants, des photos d'enfants à d'autres pédophiles qui sont leurs amis. Et qu'est-ce qu'ils vont se défendre en justice? Ils vont dire, non, moi, je suis un pédobuster, alors que c'est un vrai pédophile. Comprends-tu?
Plus que ça, je suis entièrement d'accord avec Guy. Mais en plus, c'est que les policiers, ce qu'ils nous disent, c'est que ces gens-là causent du tort à la justice parce que ils vont teinter la preuve. C'est comme ça qu'on dit dans le système de justice, c'est-à-dire que
dans certains cas, surtout s'ils ont l'œil sur quelqu'un.
Voilà, alors que si on était passé par la police, on aurait pu mettre ces gens-là en prison, alors qu'eux vont avoir corrompu la preuve, et ce sera pas admissible en cours, donc ils vont être contre-productifs, et des gens qu'on aurait pu mettre en prison, on pourra pas les mettre en prison.
J'ai juste un petit chiffre pour vous. Entre 2017 et 2021, dans nos écoles, 548 victimes de violences sexuelles commises par 252 membres actuels ou anciens qui ont commis ou été accusés pour des crimes sexuels dans nos écoles.
On dit pas qu'il y a un problème.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas levé la main quelque part, qui était au courant de quelque chose?
C'est deux problèmes différents.
Non,
c'est deux problèmes.
Non,
tu es en train de dire que le système de justice fonctionne mal.
Non, c'est pas ça. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on n'est pas capable de lever le drapeau, d'identifier des personnes qui peuvent agresser sexuellement des jeunes sans défense.
Il y a des escouades qui en arrêtent, des pédophiles.
Et combien il n'en arrête pas?
Mais évidemment, il y en aurait plus.
Aujourd'hui,
j'ai envie d'entendre là-dessus parce qu'il y a évidemment dans ce genre de cas de figure ce qu'on peut appeler la proportionnalité des peines et de faire en sorte qu'on puisse adéquatement épingler quelqu'un et faire en sorte qu'il soit envoyé en prison pour ce qu'il faut et que ça a un effet dissuasif ensuite.
Ça demande beaucoup de ressources, ça. Il faut que la police fasse l'enquête, qu'elle ramasse la preuve, que le DPCP analyse la preuve. Ça prend des gens qui font ça, ça prend du personnel, ça prend des ressources. Faut qu'il y ait un procès, faut qu'il y ait des procureurs, faut qu'on condamne, faut qu'on donne une peine. Après ça, on fait notre peine dans la prison, dans la collectivité. Les prisons sont pleines, on vide. Il y a un comité qui dit, ouais, toi, t'es correct, pas de risque de récidive. Tu retournes dehors, tu récidives. C'est compliqué, la justice, pour qu'elle fasse son travail, pour que les gens aient confiance, ils doivent
assez
avoir...
Assez pour la court-circuiter à tes yeux?
Non, c'est pas un idéal. Je dis pas que c'est un idéal, je dis que c'est un symptôme que les gens n'ont plus confiance en la justice. Et comme Yasmine dit, dans les écoles, on n'est pas obligé de filmer les gens puis de les tabasser. Non. Juste d'être vigilant, de dire à l'enfant, es-tu correct? Y a-tu quelque chose qui se passe? Quand on voit un comportement, on peut intervenir comme citoyen, comme professeur, comme collègue ou comme parent.
Tu auras le mot de la fin, Cathy. Mot de la fin. T'es jeune mère, est-ce que c'est quelque chose qui, pardonne l'expression, te fait capoter quand tu penses à ça?
Ben oui, c'est sûr. En tant que parent, on veut protéger nos enfants, ça va de soi, là. Mais les débuts du cœur, justement, s'il en trouve un, ben peut-être de relayer le dossier au service de police du quartier, peut-être de mettre les vrais policiers sur l'enquête puis faire, OK, on a trouvé cette personne-là qui nous semble à risque, alors voici...
Voici les coordonnées.
Justement. Allez l'arrêter.
Mais c'est ce que justement les policiers nous disent qu'il ne faut absolument pas faire parce que ça peut avoir un impact sur leur travail. On a communiqué avec eux. On devait avoir avec nous des policiers qui ont choisi finalement de nous laisser faire le débat en leur absence, mais qui répètent, s'il vous plaît, ne vous mêlez pas de ces affaires-là. Après la pause, justement, c'est parfaitement synchronisé avec notre conversation. On parle de réhabilitation avec deux ex-détenus, des meurtriers condamnés à perpétuité, devenus aujourd'hui de bons citoyens. J'espère.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
La réhabilitation, souvent, ça fonctionne, même pour des crimes très graves, comme on a pu le voir hier soir à Radio-Canada, dans le documentaire de mon camarade Alain Gravel, « De monstre à citoyen ». Pourtant, chaque fois qu'on entend qu'un ex-détenu a commis un nouveau crime, on se demande si les criminels ne sortent pas de prison un peu trop rapidement. Avec nous, deux ex-détenus, des meurtriers condamnés à perpétuité, ont accepté de nous raconter leur histoire de réhabilitation. Daniel Benson et Michel Dunn. C'est une première pour moi. J'ai jamais, en tout cas, en le sachant, serré la main à un meurtrier. Puis, je le dis pas pour vous accabler, évidemment. Avez-vous déjà pensé à être un monstre, Michel?
Évidemment. C'est sûr que c'est la première pensée qui nous vient lorsqu'on se réveille de ce qu'on vient de faire. Là, quand on prend conscience vraiment de ce qu'on a fait et qu'on est un peu plus... On est dans une situation où on n'est plus dans le tumulte. Là. La crise est passée, là. Ça vient, c'est arrivé, et là, on se réveille. Ah oui, c'est incroyable, on veut mourir.
Daniel?
C'est incroyable. C'est une étiquette qu'on doit porter toute notre vie parce qu'on a commis un geste irréparable.
À vos yeux aussi?
Ah oui. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont pardonné mon délit. Moi, je ne suis pas arrivé à ça encore dans ma vie.
Vous êtes deux cas de figure un peu différents parce qu'on parlait tout à l'heure de se faire justice soi-même. Dans votre cas, vous avez tué votre beau-père jeune qui était très violent avec votre mère.
Oui.
Parce que c'était insoutenable. Dans votre cas, c'est un peu différent.
Oui.
Vous avez tué votre collègue avocat.
Exact.
Vous étiez avocat.
Oui.
Je ne sais pas si c'est un coup de rouge, vous avez vu rouge, mais vous avez...
En fait, non, c'est plus un processus de longue haleine, là, une détérioration qui avait commencé à l'adolescence et un enfermement sur moi-même et finalement plus capable de demander de l'aide, la situation en pleine crise, bang.
Et vous avez tué votre associé. Je n'irai pas longtemps dans ces détails-là, mais... Est-ce que cet homme existe encore en vous, celui qui a pu tuer quelqu'un de sang-froid?
Non, c'est terminé, ça. C'est terminé.
Vous l'avez maté?
Écoutez, un être humain, ça peut faire n'importe quoi, le bon, le mauvais. Moi, j'ai commis le mauvais, je sais pourquoi. Je sais qu'est-ce qui m'a amené là. Je sais où j'ai manqué. J'ai vu mes repères, là. Et cet homme-là n'existe plus parce que maintenant, je vis autre chose. Et la plus importante, c'est d'être capable de demander de l'aide. Voilà. Quand on n'est pas seul, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème qu'on ne peut pas résoudre, dans le fond.
Quand on n'est pas seul.
Quand on n'est pas seul.
Dans vos vies, parce qu'aujourd'hui, vous aidez beaucoup d'ex-détenus, c'est une statistique bizarre, je ne sais pas lequel des deux dit « j'ai travaillé avec 2000 meurtriers ».
Ben, je pense que moi et Michel, on a travaillé à peu près avec le même nombre de meurtriers.
Ouais.
Et la question qui se pose, pas juste avec des meurtriers, c'est est-ce qu'on peut redevenir un bon citoyen? Parce que le système de justice dit « on punit ». Mais on aide la réhabilitation, ça fait partie du processus. Il y a eu cette semaine un cas à Louisville, mais c'est très différent parce qu'on mélange un peu les affaires, en effet, oui. Daniel, parce que la commission qui vous permet à vous, vous a permis à vous de recouvrer votre liberté, pas la même qui s'intéresse aux gens qui souffrent de maladies mentales.
Non.
Et on confond.
Oui, on confond. Puis, vous savez, quelqu'un qui a un problème de maladie mentale, c'est quelqu'un qui a besoin de soins. Quelqu'un qui commet un crime, qui n'a pas de maladie mentale, il a besoin d'un arrêt d'agir. Donc, il faut le mettre quelque part pour qu'il réfléchisse aux gestes qu'il a posés. C'est pas du tout la même chose. Puis, c'est toujours une question d'évaluation du risque. Est-ce que la personne représente un risque? Si oui, on la garde enfermée. Sinon, on la libère.
En m'intéressant à cette affaire-là, je me suis dit, le monde à l'envers cette semaine, c'est que les risques de récidive sont inversement proportionnels au temps qu'on passe en prison. C'est-à-dire que pour un meurtre, des crimes très graves, parce qu'on est longtemps en prison, les chances de récidive seront moindres, parce que vous aurez eu le temps de travailler sur vous.
Une sentence vie, le gars, il sort pas s'il ne travaille pas sur lui. C'est pas compliqué. Il y a des gars qui sont en prison, ça fait 52 ans qu'ils sont en prison.
Parce qu'ils sont pas prêts.
Parce qu'ils sont pas prêts à sortir. Et ils sortiront pas tant qu'ils seront pas prêts. À ce niveau-là, la commission fait un travail extraordinaire. Et les condamnés à perpétuité qui sortent, ils sont prêts à sortir. Savez-vous qu'il y en a 2000 au Canada actuellement? Qui vont très bien, qui font du travail, qui sont dans la communauté, qui font leurs affaires. 2000.
2000 personnes qui ont été condamnées
à perpétuité. Alors, il doit en avoir 800 au Québec.
Ce que ça signifie, par contre, c'est que si on est en prison pour moins de temps, les chances de réhabilitation ne sont pas les mêmes. Est-ce que c'est ça?
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que je ne pense pas que c'est nécessairement la longueur d'une sentence. Vous savez, quand on parle, est-ce qu'on peut réhabiliter les gens? Moi, je pense qu'on doit poser la question différemment. Est-ce que la personne veut se réhabiliter? S'il y a une volonté de la personne, des fois, le délai peut être plus court.
Alors, je vous pose la question candidement. Si je suis en dedans pour 8 à 10 ans, est-ce que je peux flouer le système? Puis oui. Donner l'impression que je suis sur mon processus de réhabilitation,
oui.
Cocher toutes les bonnes cases, être libéré, puis faire partie du lot de ceux qui nous inquiètent quand on lit les journaux ou on ouvre notre télévision, puis on dit « Comment ça fait qu'ils l'ont libéré? »
Oui, mais vous savez, la commission des libérations conditionnelles, là, eux autres, ils évaluent les gens, ils évaluent en fonction du risque que la personne représente, puis c'est pas une décision qui est prise sur le coin d'une table un matin, là. Il y a des évaluations psychologiques, psychiatriques, il y a plein d'évaluations des programmes qui sont faits. Donc, au bout du processus, il faut que les personnes prennent une décision parce que légalement, une sentence, ça se termine quelque part.
Mmh. Mais on peut jouer le système. On peut filouter un peu.
Ou on peut décider carrément de ne pas jouer le système, de rien faire, aucun programme, de faire son temps plein puis de sortir. Et là, c'est dangereux, c'est clair. Les gars qui sortent en libération conditionnelle ont fait leur cheminement, ont suivi leur programme. Parfois, ils ont suivi des programmes...
Donc, les plus redoutables,
c'est ceux qui sortent temps plein. Parce qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas changé. Et la qualité première pour qu'un gars puisse retourner en communauté et de redevenir un citoyen respectueux des lois, c'est d'avoir changé. C'est d'avoir fait le changement, d'opérer le changement à l'intérieur de lui-même. Et ça, ça se fait pas tout le temps. Avec les courtes sentences.
L'avez-vous senti, vous, pas le jour, la minute, où vous avez été touché par la grâce, là, mais... La période où vous avez changé, vous n'étiez plus le gars qui avait tué son associé.
Oui. Il y a des éléments déclencheurs, il y a des passages. Moi, il y en a deux, en fait. Il y a deux passages incroyables. Le premier, c'est un peu banal. J'étais en train de lire Les Misérables de Victor Hugo, puis j'ai pleuré pendant 3 semaines de temps sur toute la misère du monde et sur la mienne. Et le deuxième, c'est la rencontre des bénévoles en prison, où je me suis dit, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, eux autres? Ils pourraient faire n'importe quoi, aller magasiner, aller au cinéma, ils viennent me voir. C'est incroyable.
Et vous parlez de la misère du monde et de la vôtre.
Et de la
mienne. La famille de la victime.
La famille de la victime, la mienne. C'est toute l'humanité que j'ai fait du mal à un être humain qui était en pleine vie, là, qui était en plein élan. Alors, c'est incroyable, c'est irréparable. C'est pour ça que moi, maintenant, savez-vous ce que je fais? Je travaille dans la joie pour payer une dette irréparable.
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 Vous allez mourir sachant...
Exactement.
...qu'il n'y a rien à faire.
Yeah, je ne peux pas réparer. C'est irréparable. Et je répare d'autres personnes. Je répare pas personne. Je vais aider d'autres personnes à se réparer et ça fait mon bonheur, ça. Et j'ai besoin d'être heureux, moi.
C'est tellement weird d'être en face de deux gars qui ont commis quelque chose d'aussi grave puis de comprendre qu'ils ont non seulement le droit à une deuxième chance, ils ont le droit de faire leur vie. C'est secouant, parce qu'un élément dans l'équation qui est important, c'est la capacité que vous avez à vous faire une vie, qu'on arrête de vous juger. Quand est-ce que ça arrive, ça?
Ça arrive à force, c'est l'effort puis le travail. Vous savez, quand on sort de prison, là, moi, je suis rentré en prison à 18 ans, j'en suis sorti à 35 ans. J'ai commencé à travailler, puis où je travaillais, c'était des gens à peu près de mon âge. Lui, il a une maison, il a une voiture. Moi, j'ai pas de poêle, pas de frigidaire. Donc, tu pars avec des années en arrière, il faut que tu travailles très fort pour te refaire une place. Il faut se refaire une place.
Et vous n'êtes jamais affranchi de toutes vos obligations parce qu'il y a toujours un petit fil à votre patte.
Moi, je rencontre mon agent de libération à tous les 3 mois et ça fait 28 ans que je suis en liberté. Là.
Moi aussi, à tous les 3 mois.
Est-ce que vous avez le droit de voyager?
Oui.
Vous en avez donc profité.
Je vous dirais, moi, les voyages... C'est les seuls instants de ma vie où j'ai l'impression d'être vraiment un homme libre. Quand j'embarque dans un avion, puis je débarque dans un pays étranger, et j'ai l'impression que là, la chaîne n'existe plus. Oui, Personne ne me connaît. Personne ne me reconnaît sur la rue. Personne ne va me lancer des cailloux parce que je suis un meurtrier. Je suis en liberté.
Moi, à Montréal, je suis un bon grand-père, un vieux bon grand-père. Puis à Roberval, je suis Michel Dunn. Je me promène
parce
un peu entre les deux.
De vous.
Comment?
Parce qu'ils se souviennent de vous.
Exactement.
Merci, messieurs. C'est éclairant. Et puis, la meilleure des vies pour ce qui vous en reste, en homme qui a sur la conscience quelque chose, mais qui a le droit de poursuivre son chemin. Merci beaucoup.
Merci.
Après la pause, on remet le monde à l'endroit. Merci, messieurs.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
C'est le temps de remettre le monde à l'endroit. Puis quand je te regarde, le monde est à l'endroit. Je te trouve belle.
Oh, oh mon Dieu!
C'est comme ça.
T'es donc bien gentil.
C'est quoi ton monde?
De bureau.
Ça fait plaisir. Ton monde à l'endroit?
Bien, mon monde à l'endroit, ça s'adresse justement à toi. T'as gagné personnalité publique de l'année dans le monde des médias. Bravo! Ouais, bravo, Stéphane! Bravo! Moi, je te félicite, t'as remis les débats au cœur de notre société. Ça manquait, je trouve, au Québec. Puis tu donnes la parole à des gens qui souvent n'ont pas de voix, justement. Tu fais parler les gens qui sont des fois, tu sais, on parlait tantôt de censure, là, qui sont censurés. Toi, t'es fait parler et j'admire ça. C'est une grande force que t'as comme journaliste.
Merci beaucoup.
Félicitations.
Bise!
Alors, hommage à un héros anonyme. Cette semaine, il y a un vieux monsieur qui est tombé sur les rails du métro de Montréal. Il y a un jeune qui a sauté sur les rails pour aller l'aider à remonter et qui, après ça, est allé se rasseoir tranquillement sans aucune quête de gloire ni de laurier. Bravo à ce bon samaritain.
Lenné Pelletier de Boucherville qui va revenir au mois d'avril d'un voyage autour du monde. Pourquoi? Il y a 3 des 4 enfants qui sont atteints de rétinite. Donc, d'ici l'âge de 30 ans, ils vont devenir aveugles. Ah. Et leurs parents ont décidé de les amener partout à travers le monde pour voir la beauté du monde avant qu'elle disparaisse. Je trouve cette histoire-là magnifique.
Guy?
Oui. Mon monde à l'endroit, c'est la saison des contraventions qui commence demain. Parce que ça veut dire que le beau temps arrive, ça, mesdames et messieurs.
C'est vrai! Yasmine?
Mon monde à l'endroit, c'est un ministre qui nous donne envie de croire qu'on peut améliorer notre système de santé. Christian Dubé, c'est mon monde à l'endroit cette semaine. Il nous a fait croire que c'était possible encore.
Merci beaucoup à vous tous. Merci, vous, Cathy. Merci. Un plaisir de te retrouver. Dans quelques instants, il y a le chaos dans le transport aérien en région. On se retrouve vendredi prochain.